Pluriel gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Oui, bonsoir à tous, à toutes. Merci à nos auditeurs et nos auditrices de nous rejoindre pour une nouvelle émission de Pluriel gay ce soir, mercredi 13 juin 2018 après Jésus-Christ. Et donc, nous avons comme prévu Olivier de la LGP. Mais je vais d'abord faire un... Mais arrêtez, vous êtes bien dissipé ce soir, mais c'est pas vrai. Bernard, merci à toi d'être là à la régie.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à nos invités.
Bonsoir.
C'est chez l'effet du poisson rouge dans l'aquarium.
Ah, il est rose aujourd'hui.
Il est beau.
Oui, mais le rose lui va très bien faire ressortir la beauté de son regard bleu.
Merci.
Qui à eux seuls sont un voyage.
Exactement.
Voilà, en cours.
C'est beau ce que je viens de dire. Hein. Ah, c'est magnifique.
On note. Voilà. Gérald le poète. Quelle inspiration.
Je pense que ça a été déjà dit avant moi, mais bon.
C'est tiré d'une tirade d'un film, ça.
Oui, certainement. De toute façon, c'est pas un truc que j'ai inventé, ça, c'est sûr.
Un film amateur, bon, on dira pas lequel.
On sait jamais.
Hein. C'est notre encyclopédie. Je sais tout.
Ah, Bernard, oui. Bon, alors du coup, nous avons avec nous Laurence. Alors Laurence, je suis enchanté que tu sois là, comme tous les mercredis, tu me diras.
Oui.
Mais spécialement ce soir, parce qu'on va parler de PMA.
Incroyable.
Et je suis un petit peu déçu, parce qu'on nous avait dit que le planning familial serait là. Et du coup... Oui. Il n'est pas là. Ah, mais toi, tu es là.
Je ferai le planning familial.
Ce qui est bien, c'est que tu es une femme en plus. Et voilà. Que je trouve qu'il faut des femmes pour
parler
de la PMA.
Je vais faire toute l'histoire du planning familial de 1900, je sais pas quoi, maintenant.
Non, on parlera simplement de la PMA, c'est tout.
Très bien.
Fantastique.
Voilà, et puis nous avons évidemment notre petit Michel. Alors Michel, tu n'es pas là.
J'ai bien petit, moi.
Oui, parce que tu es plus grand que moi, c'est vrai. Mais c'est petit, c'est affectif. Tu comprends? C'est affectueux.
Moi aussi, je t'aime.
Voilà.
Bonsoir à tout le monde.
Quelle belle barbe.
Oui,
c'est vrai,
elle est toujours bien taillée.
Je fais alors pour toi, je savais que tu aimais bien les barbes.
Tu parles à qui là, Laurence ou à moi?
Hein? À Laurence.
Alors, c'est vrai, j'aime bien les barbes.
Je me demande si tu veux pas changer le nom de l'émission. Ça va pas s'appeler Pluriel Hétéro, tout simplement. Bon, alors du coup, notre invité, le plus important, il est là, Olivier, qui connaît bien l'émission. Olivier, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Gérald, bonsoir tout le monde.
Voilà, Olivier, tu es déjà venu plus d'une fois ici, et c'est souvent avant la marche, puisque, ce qui est tout à fait normal, dans la mesure où tu es porte-parole de la LGP, Lesbian and Gay Pride de Lyon, organisatrice de la marche. Et cette année, la marche se passe dans un contexte tout de même inhabituel. On peut le dire.
Mmh.
Voilà. C'est plus qu'une marche traditionnelle, je dirais. Hein. C'est vraiment la marche avec un grand M. On met toujours un grand M en général, mais là, il est très grand parce qu'il y a eu des événements, des retournements de situations incroyables déjà, puisque ça fait des années et des années que... Enfin, quelques années en tout cas, que la LGP réclame le passage par le vieux Lyon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il rigole, lui?
Non, mais j'entendais qu'il
respirait. Je voudrais un peu
de silence.
Qu'il a...
Oui, voilà. Maître.
Un peu de concentration, s'il vous plaît.
On dirait ma fille aujourd'hui.
Bon, alors donc, après des années de demandes infructueuses auprès de la préfecture, soudain, mais de façon tout à fait inattendue, on peut le dire.
Ah, tout à fait.
La préfecture vous autorise la marche à passer par... à aborder le vieux Lyon, on va dire, parce qu'il s'agit juste de l'aborder. C'est vrai que le vieux Lyon, il faut quand même reconnaître que ce n'est pas, comment dire, topographiquement un lieu très facile pour faire passer des manifestations.
Pas moins que les... Enfin, comme on passe que sur les quais, qu'on passe d'un côté ou de l'autre des quais, c'est quand même quasiment la même chose. Il n'y a pas énormément de différence.
Voilà, c'est pour ça qu'en fait, il s'agit, je dis, aborder, parce qu'on peut vraiment passer que sur les quais pour faire une manifestation.
Oui, c'est sûr qu'on ne va pas aller passer devant l'église de Saint-Jean, dans les petites rues du vieux Lyon.
Encore l'église, ça va, la place, elle est grande.
Oui,
il pourrait faire un rassemblement devant. Ce serait symbolique, ça aussi.
Mais après, comme les rues sont piétonnes, de toute façon, passer avec des 38 tonnes, ça serait un petit peu compliqué.
Oui, c'est vrai. Alors, du coup, la marche va partir de la place Bellecour et revenir sur la place Bellecour va faire une boucle.
Tout à fait, oui. On fait ça depuis maintenant quelques années parce que c'est beaucoup plus pratique pour nous, cette boucle, parce que ça permet... De monter le village associatif en même temps qu'on monte les chars pour préparer le départ de la marche, d'avoir du coup qu'une seule équipe à gérer, de pas avoir des gens qui sont aux quatre coins de la ville et qui peuvent pas participer au début de la marche, etc. Et donc du coup d'avoir aussi un beau village avec des tentes, parce qu'on peut prendre le temps de monter les choses correctement et d'avoir un village qu'il soit plus dynamique aussi, qu'il soit plus visible et sur lequel il y a plus de monde qui va venir. En tout cas, c'est ce qu'on constate depuis qu'on fait cette boucle Bellecour-Bellecour. Voilà.
Alors cette année, peut-être qu'il y aura encore plus d'affluence vu les événements. Je ne sais pas, je les souhaite en tout cas, personnellement. C'est vrai que la marche connaît d'année en année un succès grandissant, il y a toujours plus de participants. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, bon, il y a cet événement inouï, d'un seul coup, que vous êtes autorisé, alors que depuis des années, vous réclamez à la préfecture ce passage par le Vieux-Lyon.
Mais pourquoi alors cette année ?
Voilà, alors, pourquoi cette année ? Et pourquoi le Vieux-Lyon est-il un enjeu, déjà, très aussi important pour la LGP ?
Alors, pourquoi c'est un enjeu ? Bah, parce que le Vieux-Lyon, depuis... notamment depuis 2010, a vu s'implanter un certain nombre de groupuscules d'extrême droite radicale. Je pense aux identitaires de Rebein qui ont monté la Traboule, qui ensuite ont monté la Gaugé, qui est une salle de sport pour les Blancs. On connaît salle d'entraînement de leur milice fasciste, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et dernièrement, c'est le GUD qui s'est installé là-bas. Alors le GUD, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas cette merveilleuse association qui se présentait comme un syndicat étudiant qui allait aux élections universitaires avec des bêtes de baseball, ce qu'on appelle le matériel démocratique, et qui se livre assez régulièrement à des agressions violentes sur des personnes qui n'ont pas la couleur de peau que ces messieurs apprécient, sont identifiés comme sympathisants de gauche ou d'extrême gauche ou sont homosexuels, en tout cas ne correspondent pas à l'image que ces messieurs, parce que c'est quasiment que des garçons, se font du bon français. Et effectivement, depuis 2010, il n'y a plus eu aucune manifestation progressiste autorisée sur le quartier.
Sauf une.
La dernière
qui était non progressiste d'ailleurs.
Non, c'est pour ça que je dis progressiste.
Oui.
La dernière, ça a été le fameux kissing devant Saint-Jean, où justement les identitaires, les fachos étaient présents. Ils avaient pris possession des lieux sans autorisation, parce que nous, on avait une autorisation de manifester, et on était séparés par deux cordons de gendarmes, et que ce kissing s'est finalement résumé à un échange d'injures et de colibés de part et d'autre, même si on s'est quand même embrassé de notre côté, ce qui n'était pas le cas en face. En face, on a eu droit à des saluts nazis, à des Saint-Jean est à nous.
Ils auraient mieux fait de s'embrasser. Quand
à des petites prières à genoux.
Bah, voilà, c'était faites l'amour, pas la guerre, c'est mieux.
Oui, bien sûr.
C'était assez particulier. Et donc, du coup, depuis, il n'y a plus aucune manifestation, que ce soit le planning familial, que ce soit le collectif de Vision 69 contre l'extrême droite, que ce soit la Gay Pride. Alors, la Gay Pride, nous, on avait demandé, la Lesbian Gay Pride, on avait demandé ça en 2015. Sur l'itinéraire que... Enfin, en tout cas, la partie où on va passer dans le Vieux-Lyon cette année, c'est exactement l'itinéraire qu'on avait demandé à l'époque. C'est-à-dire le pont Bonaparte, le quai... je crois que ça va être Romain Rolland, si je ne me trompe pas. Et le pont Maréchal Juin, donc les deux ponts qui se suivent l'un derrière l'autre, en passant juste devant le tribunal, l'ancien tribunal, la cour d'appel. Et on nous avait dit à l'époque que non, c'est pas possible, on n'autorise plus aucune manifestation sur le quartier pour des raisons de sécurité. On n'était pas très heureux, mais on s'est dit bon, si on n'autorise aucune manifestation, vaille que vaille, on va mettre notre... on va mettre ça notre petit mouchoir là-dessus, et puis on va attendre un petit peu. Et puis quelques semaines plus tard, qu'est-ce qu'on n'apprend pas ? La Manif pour tous organise un rassemblement devant l'ancien palais de justice, devant la cour d'appel contre la PMA, contre la GPA. Et donc là, ça veut dire que c'est pas on interdit toute manifestation sur le quartier, c'est ça veut dire on interdit toute manifestation qui pourrait déplaire aux personnes qui considèrent qu'ils se sont fait de ce quartier leur fief, ils considèrent que c'est leur terrain, leur territoire, et qui n'acceptent pas que d'autres personnes puissent aller dans le quartier et qui s'en prennent aux commerçants, aux associations comme les Maisons des Passages, la MJ du Vieux-Lyon, des commerçants comme l'horloger de Saint-Paul qui a eu sa vitrine fracassée il y a quelques mois. Enfin voilà.
Alors moi, je vais me faire l'avocat du diable, mais aussi la préfecture peut se dire il peut y avoir un danger à ce que des manifestations telles que la Marche des Fiertés passent par le quartier du Vieux-Lyon, parce que il va y avoir des provocations, il va y avoir des gens extérieurs qui vont venir spécifiquement avec justement les fameuses balles de baseball que battent. Non, pas balle, mais bac de baseball que tu évoquais tout à l'heure, etc. Ça peut être un argument recevable de la part de la préfecture.
Bah, c'est le rôle des forces de police de protéger les citoyens et de leur permettre de pouvoir manifester partout dans l'espace public. C'est le rôle de la police. Et à un moment donné, ils ont les moyens de le faire. Quand ils bunkérisent la préfecture pour certaines manifestations syndicales qui passent à côté, qui n'ont aucune intention d'aller s'en prendre à la préfecture, ils savent très bien faire. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne sachent pas plus faire, pas moins bien faire ici. Par contre, oui, il est anormal qu'il y ait des quartiers à Lyon où il n'est pas possible de manifester une opinion différente que un petit groupe de personnes qui, parce qu'ils se livrent à des violences régulièrement, on se dit, non, ça va être trop compliqué. Non, ça, on n'accepte pas. Et c'est pour ça que on avait demandé ça. C'est pour ça qu'on fait aussi partie du collectif Fermons le pavillon noir, qui demande justement la fermeture du local du GUD. Et tout ça, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils font régner un climat de terreur sur le quartier. Et il est important de montrer justement qu'on ne cède pas. Lors de questions de montrer qu'on a peur, parce que c'est exactement ça qu'ils veulent en fait. Ils veulent nous faire peur, ils veulent nous dissuader de venir là, quand ils étaient devant Saint-Jean, nous dire Saint-Jean est à nous. Non, Saint-Jean n'est pas à vous. Saint-Jean est à tout le monde, le quartier est à tout le monde, et on peut tous y aller. Et c'est ça le message qu'on veut porter cette année en passant dans le Vieux-Lyon.
Olivier, juste une petite question. Est-ce que tu penses le changement, le revirement d'acceptation, disons, de passer la Gay Pride dans le Vieux-Lyon? Si tu avais remarqué depuis quelques jours, même une quinzaine de jours, les médias comme BFM TV en parlent énormément. Donc on a vu quand même un reportage, donc l'horloger que tu as parlé il y a 15 jours, qui s'était fait donc agresser, et tous les crépuscules. Est-ce que tu penses effectivement que ça a un peu aidé pour pouvoir enfin peut-être éradiquer ou montrer l'image enfin qu'on les voit, qui sont effectivement existants?
Je pense qu'effectivement il y a eu depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, notamment l'initiative du collectif Fermons le pavillon noir, un battage médiatique autour de l'implantation de ces groupuscules dans le quartier, qui à mon avis déplaît Place Beauvau, et que je pense que le locataire de la Place Beauvau avait un petit peu marre qu'on présente la ville dont il fut maire comme la capitale de l'extrême droite. Et que c'est une façon aussi de calmer un petit peu les choses. Et après, il y a un autre élément, à mon avis, qui est important, c'est que je vous rappelle que l'année dernière, le préfet nous a même interdit partiellement la marche et nous a imposé un parcours alternatif, et on a attaqué en justice. Et le seul argument, finalement, qui a été retenu par le tribunal, parce que le tribunal est allé dans le sens de la préfecture, en première instance, le seul argument, finalement, avancé par le tribunal pour aller dans le sens de la préfecture, c'est la question de l'état d'urgence. Parce qu'en 2007, on était sous le règne de l'état d'urgence. Aujourd'hui, on n'est plus sous le règne de l'état d'urgence, donc je pense qu'ils ont vu aussi que si cette année, ils nous refaisaient le même coup, et qu'on allait en justice, cette fois-ci, on avait toutes les chances de gagner, puisqu'il n'y avait plus d'état d'urgence, donc ils n'avaient plus d'arguments.
Oui, l'année dernière, ça pouvait encore fonctionner, cette année, ça ne pouvait plus fonctionner.
Voilà, je pense que ces deux éléments-là sont importants dans cette décision. En tout cas, nous, on l'a appris avec surprise.
Oui, c'est ça, vous l'avez appris vraiment au dernier moment.
Je crois que c'est le 6 juin qu'on est allé à la réunion avec la préfecture. D'habitude, ça se passe plutôt fin avril, début mai. Là, ils ont attendu début juin pour le faire. Et donc, du coup, on s'attendait à ce qu'ils nous embêtent un petit peu sur le parcours. On avait prévu des parcours alternatifs pour essayer de contrer leurs arguments. Puis finalement, d'entrée de jeu, on nous propose ce parcours-là qui passe effectivement devant le palais de justice, qui reprend le pont Maréchal-Juin, la rue Grenette. On redescend ensuite sur les quais pour revenir sur Bellecour par la rue de la Barre. Donc nous, on a dit banco. Alors si, moi, je trouvais un petit peu dommage qu'on passe pas devant l'hôtel de ville. Donc j'ai essayé de négocier qu'on puisse remonter sur les terreaux et redescendre. Et c'était compliqué.
Parce que le parcours est quand même réduit par rapport à la dernière.
Le parcours est un petit peu réduit. Effectivement, on perd 600 mètres de parcours sur 3 km 5. Bon, c'est pas non plus énorme. Et on s'est dit que finalement, ces 600 mètres, c'est pas dramatique pour le symbole que ça a de pouvoir passer dans le
cinquième, voilà, dans le Vieux-Lyon.
Alors je rajouterais, pour rebondir un peu sur ce que disait Michel, c'est que c'est vrai que les médias ont beaucoup parlé ces derniers temps de l'extrême droitisation de Lyon, voilà. Et présentent même parfois Lyon comme une sorte de laboratoire de l'extrême droite française, d'autant plus qu'il y a l'installation, on le sait, à Lyon, de l'école privée politique de Marine Maréchal.
Marion Maréchal, puisque maintenant elle a
abandonné. Ah oui, elle a
abandonné Le Pen.
Marion Maréchal Pétain.
Pétain, voilà.
Ou Marion Maréchal nous voile là, je ne sais pas.
Enfin bref, en tout cas, cette école s'installe à Lyon et de façon circonstanciée, parce qu'elle a elle-même dit oui, Lyon a tous les atouts pour mon école, etc.
Mais cette école, elle va être quoi, elle, dedans? Elle va être c'est quoi, la directrice? Ça va être une prof? Ça va être une quoi?
Je pense que c'est la directrice, quelque chose comme ça.
C'est incroyable, ça.
J'ai entendu, ça va être le garde. C'était un peu la représentation de Sciences Po, mais sans aucune qualification. J'ai vu ça, effectivement, elle voudrait. Alors, je pense peut-être.
Mais c'est une école politique, comme il en existait, et désolé pour la comparaison, au Parti communiste avant.
Hein. Oui, c'est dans le même.
Je,
le même
oui, oui, voilà, mais je compare pas les deux idéologies, je dirais quand même, parce que
ce sera pas des vrais
je n'aime pas trop mélanger les torchons.
En tout cas,
les
ils sont pas reconnus par l'État, donc effectivement, c'est un peu comme les diplômes de certaines écoles de commerce.
C'est une école politique, en fait, comme voilà. Je disais.
Mais je pense qu'elle va essayer de faire un travail pour faire reconnaître son diplôme, oui, le diplôme de son école.
Est-ce que Laurence disait, c'est juste
pourquoi chez nous
pourquoi chez nous, elle a dit parce qu'il y avait un terrain propice. C'est une ville d'intellectuels posée, etc. C'est pas comme les bobos parisiens. Les Lyonnais sont mieux que les bobos parisiens. Mais elle parle au nom de tous les Lyonnais. Je pourrais ne pas me sentir concerné, parce que moi je suis en banlieue, comme je disais. Je me sens un petit peu concerné parce que c'est la métropole de Lyon. Mais je pense que même les habitants des arrondissements.
Après,
voilà,
c'est vrai qu'on
après les habitants de Lyon, même, enfin les arrondissements, je ne pense pas que vous vous sentiez concerné par les propos. Alors elle parle aussi un petit peu trop facilement. Alors peut-être qu'il y a une fraction de la population, mais voilà, ce n'est pas toute la population. Et ce que tu disais, Laurence, aussi, moi ça, je me suis posé la même question. Comment elle peut à obtenir le droit, finalement, parce que quand même la mairie a bien son mot à dire.
Ah ben non.
Non.
Bah, pas du tout. Bah, elle va louer un immeuble privé. Il y a plein d'écoles privées qui disent elles n'ont pas besoin d'autorisation.
Ouais. Sauf si c'est avec des contrats avec l'État, mais là c'est pas le cas, il n'y a aucun contrat avec l'État.
Non, il n'y a pas de reconnaissance du diplôme, il n'y a pas de financement de l'État. Elle a trouvé des financements, notamment de M. Becbédé. Des républicains qui étaient candidats à Paris contre Anne Hidalgo, voilà, des gens comme ça de la droite, entre la droite, enfin de la droite Wauquiez et l'extrême droite qui ont de l'argent et qui financent. Rappelez-vous, quand les identitaires ont fait leur petite excursion au col de l'échelle, c'est 30 000 euros quand même qu'ils ont claqué en louant des hélicoptères, des drones. Ils ont de l'argent quand ils ont fait leur truc en Méditerranée là, avec leur bateau. C'était 150 000 euros quand même qu'ils ont lâché. Donc il y a de l'argent. Ils ont une capacité de lever des fonds à l'extrême droite que nous, Association Progressiste, on est bien en peine. On a lancé un appel aux dons. On est à 2 000 euros, quoi. Donc l'année dernière, on avait réussi. On avait fait
vous un travail une bouée,
à 5 000. Mais voilà, quoi. Eux, ils arrivent à lever 30 000, 150 000 euros...
Et en attendant, la presse s'est emparée de ça, la presse, les médias, etc., les réseaux sociaux, présentant de plus en plus Lyon comme une vitrine de l'extrême droite française, avec la présence de ces groupes à Saint-Jean, l'arrivée de Marine... Maréchal, et du coup avec son école, et du coup, voilà, et Gérard Collomb, pour ne pas le citer, puisque c'est lui qui est locataire de la place Beauvau actuellement, ça a dû un peu l'énerver un petit peu. Je pense. Et les bruits courent qu'il aurait pris son téléphone et il aurait dit « il faut autoriser ». Mais ça, on n'en sait rien.
On n'en sait rien. Je pense qu'on n'aura jamais les petits secrets
ça
derrière.
Ça se passe dans les ordres de la République, dans les couloirs.
Mais c'est pas impossible.
Quand même, il y a eu un revirement quand même de la préfecture assez...
rapide.
Voilà, assez rapide et inattendu. Donc il y a quand même eu, à mon avis, des instructions venant...
C'est vrai que je peux vous dire, nous, on était pas très fiers quand on était à la préfecture, avec la décision de justice qui était contre nous la veille. On sentait que ça allait être compliqué d'essayer de passer d'essayer de forcer la main de la prévision pour passer dans le cinquième. Bon, on n'a même pas eu à leur forcer la main, on est passé sans problème. Donc
les portes grandes ouvertes.
Surprise, mais agréable surprise.
Agréable surprise. Alors c'est vrai que ça a été présenté comme une victoire, c'en est une, à mon goût en tout cas. Ceci dit, maintenant c'est quand même une responsabilité qui pèse un peu sur les épaules de la LGP. Alors il faut compter sur les forces de l'ordre, on espère qu'elles seront présentes, je pense que vous l'espérez.
Oui, de toute façon on a...
Et vous avez des contacts pour savoir comment ça va se passer?
Oui,
là, justement.
Ça fait partie des choses qu'on a, dès d'entrée de jeu en réunion en préfecture, c'est la première chose qu'on leur a dit. Hein. Parce que si vous vous rappelez l'année dernière, pour ceux qui ont fait la marche, lorsqu'on a remonté les quais du Rhône... la circulation n'était pas coupée dans le sens descendant et surtout il n'y avait aucune sécurisation des transversales, ce qui fait que les voitures qui descendaient à chaque intersection au niveau des ponts pouvaient passer sur l'autre voie et renverser qui voulait. On nous avait obligé à bunkériser la place Bellecour en disant attention, on est en plan Vigipirate, il y a des risques d'attentat, il faut mettre des véhicules anti-bélier. Mais par contre, on peut passer sur les quais avec des véhicules qui descendent en face, qui peuvent passer la voie et renverser qui y veulent sans problème. Donc ça, on l'a signalé d'entrée de jeu à la réunion inclusive, qui ont reconnu d'entrée de jeu, dit, ah oui, vous avez raison, on a mal géré la sécurisation l'année dernière, parce que vous avez fait dans la précipitation, vous trouvez quelques excuses, n'étaient pas au courant, je pense que le préfet avait quand même décidé de ça bien avant, en tout cas, cette possibilité-là. Enfin, donc là, ils nous ont dit, non, cette année, vous inquiétez pas, il y aura des véhicules pour empêcher le passage d'une file à l'autre, pour éviter qu'effectivement des fous ou des fanatiques décident à venir renverser des passants sur la marche. Et puis du côté Vieux Lyon, bah, évidemment, ils vont renforcer les forces de l'ordre. Il y aura aussi des équipages de la police municipale qui seront là pour assurer
la sécurité. Bloquer, ils vont faire des cordons de sécurité.
Je pense que oui, je pense que ça.
Ils vont essayer de bloquer les identitaires, en tout cas, parce que voilà, c'est eux qui vont affluer sur la marche pour provoquer, pour faire leur
cinéma habituel. Après, tu sais, ces gens-là sont pas très courageux.
Ouais.
Et je pense que face à 15 000 personnes, ils vont pas jouer les bravaches.
Oui, surtout qu'ils sont pas si nombreux que ça, en fait.
Ils sont pas si nombreux que ça,
en fait. Ça concerne une centaine de personnes au plus.
C'est sûr qu'ils sont capables de faire de la violence, ils sont capables de faire des dégâts, ça, y a pas de doute là-dessus. Après, je pense pas qu'ils iront non plus trop durement là-dessus, parce qu'ils savent qu'il y aura les flics en face, et puis qu'en face, on est 15 000 personnes, et que ça va être un petit peu compliqué pour eux.
Ouais. Mais en même temps, quand vous avez appris ça...
Et nous, on a renforcé également notre service d'ordre, on a fait appel au service d'ordre des syndicats qui vont nous soutenir aussi.
Mais est-ce que ça vous remet pas un peu plus de pression encore, en même temps?
Si, évidemment.
Parce que s'il se passe des événements, n'importe quoi, ça va vous retomber dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça se passe bien à tout prix, quoi.
Je pense qu'il faut que ça se passe bien, du point de vue de tout le monde.
Du point de vue de tout le monde, de la police,
la préfecture, comme de... Je pense qu'il flippe, la police aussi, parce qu'après, je pense que oui, Gérard Collomb, il a eu un impact sur la décision, bon, tant mieux pour l'LGP, pour ceux qui vont participer à la marche. Mais voilà, que la préfecture soit tout gentille comme ça avec vous, vous accorde pratiquement tout, presque du jour au lendemain, je pense qu'il y a aussi une pression de la part de la préfecture qui dit qu'il faut absolument... Qui est aucun.
Il y a une pression médiatique. Et donc, je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire les choses à moitié de leur côté. Nous non plus, on ne va pas se voir à face. On a renforcé notre service d'ordre. On a d'ailleurs une réunion demain, une deuxième réunion demain. Il y aura probablement une troisième vendredi ou samedi pour vraiment coordonner au mieux notre service d'ordre et éviter qu'il puisse y avoir le moindre incident. Alors, nous, normalement, le rôle de notre service d'ordre à nous, c'est d'éviter que des gens de notre cortège s'en prennent à l'extérieur. La protection de l'extérieur vers le cortège, c'est normalement les forces de l'ordre. Mais évidemment qu'on sera vigilant aussi, et qu'on sera particulièrement attentif. Mais on l'est chaque année, parce que de toute façon, chaque année, on a des gens de l'extrême droite qui se mobilisent. Moi, je me rappelle aussi en 2013, si vous vous souvenez...
Oui, il y a déjà eu des incidents sur la marche.
On a toujours eu des incidents sur la marche. Ça a toujours existé. Mais en 2013, je me rappelle, la réunion en préfecture, où ils nous ont dit qu'ils allaient doubler les effectifs de police pour protéger, parce qu'avec les manifs pour tous qu'il y avait eu, etc., ils s'attendaient à ce qu'il y ait potentiellement davantage d'incidents que d'habitude. Bon, il n'y en a pas eu. Mais vaut mieux toujours pêcher par excès de prudence qu'autre chose. Donc évidemment qu'on a pris en compte tout ça. Je pense que la police a pris en compte tout ça. On a envoyé aujourd'hui un certain nombre de messages via notre avocat au service de police et de la mairie pour confirmer qu'il y avait bien vraiment une sécurisation importante sur le défilé pour s'assurer que les choses vont être faites dans de bonnes conditions. Et je pense qu'elles le seront, parce que pour le coup, là, le parcours a été vraiment prévu longtemps à l'avance par la préfecture, même s'ils nous l'ont proposé au dernier minute. Je pense qu'ils ont travaillé dessus depuis déjà un petit moment.
Alors, moi, je me suis posé aussi la question par rapport à la participation. Moi, dans mon idée, il peut y avoir... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier. Je vais te poser la question, d'ailleurs. Est-ce que des personnes vont hésiter à venir à la marche à cause du passage au Vieux-Lyon, pensant qu'ils vont se sentir en insécurité? Ou alors, à tout le moins, refuser de ne pas aborder la partie Vieux-Lyon, rester sur la rive... c'est la rive gauche, c'est ça? Oui, la rive gauche de la Saône.
J'ai pas le sentiment que ce soit très développé. Il y en aura peut-être. Mais moi, je regarde beaucoup... Enfin, on regarde pas mal les commentaires qu'on voit sur les réseaux sociaux quand on publie les choses autour de ça. Bon, il y a quelques personnes qui manifestent un petit peu d'inquiétude. Mais globalement, moi, j'ai pas vu de gens qui disaient qu'ils avaient peur et qu'ils viendraient pas.
Alors, en revanche, le contraire peut être possible aussi.
Possible.
Des gens qui ne venaient pas à la marche parce qu'elles trouvaient qu'elle était plus assez politisée politique, vont venir.
Il y a des chances, mais en tout cas, on espère qu'il y aura davantage de monde. On le fait chaque année. Globalement, on est plutôt en augmentation d'année en année, parce que bon, c'est aussi la réputation de la marche qui grandit aussi d'année en année. Donc on espère qu'il y aura davantage de monde. Et puis de toute façon, plus nombreux on est, plus on est en sécurité. Moi, c'est pas tant sur la marche que je crains éventuellement des choses. Souvent, quand il y a des agressions, c'est plutôt après. Lorsque les gens se dispersent, qu'ils sont isolés.
Ou en soirée, plus tard.
Ils se retrouvent tout seuls, entre guillemets, ou à des petits groupes d'amis dans la rue, et où là, il n'y a pas les policiers pour les protéger, il n'y a pas de service d'ordre pour les protéger, et là, potentiellement, il peut y avoir des incidents. et que ce soit la marche ou que ce soit pas la marche, hein, je sais pas si vous vous rappelez, au moment de, il y a quelques temps, c'était au moment du Nouvel An, il y a eu des personnes trans qui ont été agressées en sortie d'une boîte, en allant au centre LGBT. Mmh. Bon, voilà, c'est malheureusement des choses qui arrivent encore aujourd'hui en France et à Lyon. Mmh. Contre lesquels bah, il est compliqué de. À part aider les victimes, faire condamner les auteurs, il est difficile d'empêcher voilà, toutes ces formes de violence qui peuvent exister.
Alors, autre chose, il peut y avoir aussi. Tu évoquais éventuellement des présences de groupes qui pourraient éventuellement provoquer aussi au passage à Saint-Jean. Et on sait que se développent depuis quelques années les groupes intersectionnels, les groupes de anarcho-queer, les queers racialisés, etc., etc. Et ceci, alors déjà, organise une pride de nuit oui. La veille, le vendredi 15 juin, et considère la plupart, que je trouve que c'est une bonne idée d'ailleurs, que ce n'est pas antinomique avec la marche traditionnelle du 16. Donc ils disent, il y a la marche, la Pride en non-mixité choisie le vendredi à 15 juin, la veille de la marche, et le samedi, on va venir à la marche, on sera bien visible avec nos banderoles, etc. Est-ce que ça aussi, ça vous fait pas un petit peu peur? Est-ce que d'abord, ils sont bienvenus sur la marche?
Évidemment qu'ils sont bienvenus, tout le monde est bienvenu sur la marche. Nous, on fait pas de tri entre les manifestants, il n'y a pas les bons et les mauvais manifestants. Puis on peut rappeler quand même l'histoire des Gay Pride, hein. Les premiers à avoir manifesté, c'était des trans, des travestis, des prostituées,
des personnes de couleur.
Donc évidemment que pour nous, ça fait partie aussi de la tradition de la marche, hein, d'accepter tout le monde, y compris les gens les plus extravagants qui soient, et aussi les gens qui sont habillés comme monsieur et madame tout le monde, les familles avec des enfants qui viennent sur la marche. Il y a de tout sur la marche des fiertés, et c'est ça aussi la force de cet événement, c'est d'arriver à rassembler un petit peu tout le monde, même si tout le monde n'est pas forcément d'accord et qu'il peut y avoir des dissensus sur certaines revendications ou certains positionnements politiques. C'est pas ce qui est le plus important ce jour-là. Le plus important, c'est de manifester, d'être nombreux et de faire entendre notre voix ou nos voix, en tout cas.
On peut dire d'autant plus que ces groupes-là ont quand même peuvent défiler derrière dans une marche où la PMA est la revendication principale, parce qu'ils sont évidemment, je pense, aussi pour la PMA.
Cette année, la marche des fiertés, c'est pas qu'elle est plus importante que les autres années, mais il y a énormément de combats.
Oui,
je trouve. Il n'y a pas que la PMA. La PMA, c'est un des plus importants, on va dire, parce que ça fait des années qu'on en parle et qu'on aimerait bien qu'enfin la loi soit votée. Mais voilà, il y a l'histoire de libérer Moussa, mais c'est pas... lui, malheureusement, il est...
On va y revenir après, bien sûr.
On va en parler après.
Ça, en plus, il y a ça, bien sûr, cette affaire, cet événement.
Il y a le cas libérer Moussa et puis plein d'autres personnes qui sont dans la même situation que lui. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi ? Je me souviens plus.
Oui. Enfin, du coup, il y a une sorte de cristallisation sur la marche de Lyon, sur la marche lyonnaise cette année en plus. Ça veut dire qu'elle est scrutée beaucoup plus attentivement que les autres années par les autres associations militantes en France, y compris de la sacro-sainte capitale parisienne qui détient, n'est-ce pas, le savoir au-dessus de tout le monde, puis d'un seul coup se rendre compte que. Bon, déjà, par rapport au mot d'ordre de cette année, nous ne reviendrons pas dessus. Le but n'est pas de taper sur l'inter-LGBT, mais rien que ça, voilà. Et ensuite, l'événementiel se passe finalement à Lyon. Bon, c'est vrai que ça flatte un petit peu notre ego, c'est vrai. Peut-être on aurait préféré que ce soit dans d'autres conditions que celle-ci. Mais cette fois-ci, on sent qu'il y a un intérêt accru dans toute la France pour la marche de Lyon.
J'espère. En tout cas, c'est...
Parce que celle qui porte finalement les principaux messages de ce qui se passe actuellement.
On n'est pas les seuls non plus.
Mais vu l'événementiel, je veux dire.
Oui, après, effectivement, le contexte particulier de l'extrême droite, le combat pour le Vieux-Lyon, a effectivement mis un focus plus particulier sur Lyon. Mais il y a d'autres marches qui ont aussi porté la question de la PMA, et de manière des fois un peu plus provocatrice que nous. Hein, je pense à Metz, avec son slogan « Embargo sur le sperme, Macron doit tout lâcher
». C'est joli.
J'ai trouvé génial. J'ai trouvé que c'était une façon originale de faire passer le message. Et,
Et à Tours, ils ont fait une affiche représentant un personnage androgyne, mi-homme, mi-femme, portant un enfant dans l'attitude de la Vierge, fait, hein, la Vierge à l'enfant, et ils ont toutes les associations catholiques, enfin l'Église sur le dos.
Catholiques, intégristes, intégristes, l'Alliance Vitale, les reliquats de la Manif pour tous.
Voilà. Mais tu vois, là, si tu regardes donc, le petit livret de la quinzaine des cultures LGBTI, que tu
qui se tient donc depuis le 8 jusqu'au 23 juin 2010.
Exactement. Alors, il y a la PMA sans condition, il y a aussi donc, ce qu'on disait. C'est pour ça, c'est pour revenir sur le poids de la marche des fiertés, où il y a la PMA, mais il y a encore tellement d'autres choses. Je suppose qu'il y a des associations trans qui seront là une fois de plus pour...
Il y a un chrysalide qui sera présent sur la marche.
Pour dire que pour les trans, il y a encore un travail, mais il y a tout à faire hein, pour les droits des trans.
Oui, bien sûr. Oui.
L'exil n'est pas un délit, donc ça rejoint ce qu'on disait avec l'affaire Moussa, je vais appeler ça comme ça. Pour une réforme de la filiation qui protège tous les enfants. Là aussi, on en est où? Il y a quand même un problème. Il y a une loi qui a été votée qui s'appelle la loi sur le mariage pour tous, où encore même quand on est marié, bon, moi je dis ça, ça a été mon cas, mais c'est le cas de milliers de couples, ma femme, j'allais dire ma compagne, mais mon épouse a dû faire une demande d'adoption au tribunal pour devenir le deuxième parent légal de ma fille que j'ai portée. Voilà, il y a des tas de choses
couple,
à faire. Aujourd'hui,
un couple de lesbiennes mariées peut avoir jusqu'à 3 livrets de famille.
Oui.
Le livret de famille où elles sont mariées. Si l'une des deux est parent biologique d'un enfant, bah elle aura un autre livret de famille avec elle et son enfant biologique. Et puis, éventuellement, si l'autre fait aussi mère biologique d'un enfant, elle aura à nouveau un troisième livret de famille où il n'y aura que elle et son enfant. Et finalement, ces couples sont obligés d'adopter leurs propres enfants. C'est juste hallucinant.
Alors, moi, ce que je propose, c'est en deuxième partie d'émission, on reprendra là-dessus, on reprendra sur les deux principales thématiques donc, qui sont surgies à la marche.
Ah, puis il y a peut-être une toute thématique,
Ouais,
c'est aussi les intersexes.
Les intersexes.
C'est d'ailleurs la nouvelle lettre qu'on a rajoutée depuis 2 ans sur la marche. Parce qu'effectivement, c'est aussi un combat qu'il faut mener aujourd'hui. Les personnes intersexes, alors pour expliquer un petit peu aux auditeurs, les intersexes, c'est des personnes qui naissent avec ce qu'on peut appeler un sexe ambigu ou qui sont hermaphrodite.
Oui, ce qu'on appelait hermaphrodite avant.
C'est un peu plus compliqué que ça, mais pour résumer, on va dire
ça. On disait qu'ils avaient les attributs des deux sexes. Bon,
voilà. Et aujourd'hui, un enfant intersexe, à la naissance ou quelques jours après la naissance, le médecin décide avec les parents, mais en général, c'est pas les parents qui vont contredire l'autorité du médecin, choisir de l'assigner à un garçon ou à une fille, de lui mettre une opération chirurgicale et la naissance, et donc de les mutiler. Et bien souvent, ces enfants arrivés à l'adolescence, quand ils vont pouvoir justement s'identifier en tant que garçon ou en tant que fille, le sexe qu'on leur a imposé à la naissance ne sera peut-être pas, et souvent n'est pas celui que le médecin leur a imposé au moment de la truc. Alors qu'il n'y a aucune justification médicale pour les opérer aussitôt. On pourrait tout à fait attendre l'adolescence, au moment où les caractères sexuels vont se développer. À ce moment-là, oui, il devient important de pouvoir médicalement, ça peut devenir problématique de pas être défini d'un côté ou de l'autre. En tout cas, hormonalement. Et donc là, effectivement, oui, il peut se passer des choses, mais il faut demander aux gens.
Oui, tu penses plutôt que c'est la personne qui doit choisir. Moi, j'ai vu quelqu'un qui était dans ce contexte-là. Effectivement, bon, ils n'ont pas. Parce que c'était des médecins, c'était à la campagne. Effectivement, ils ont enlevé. Ils ont fait l'ablation d'un sexe, qui malheureusement n'était pas le bon. Mais effectivement, après, il y a tout un processus. On a beaucoup discuté de son problème. Et c'est vrai, c'était très difficile pour elle, parce que là, elle voulait être un garçon, et c'était une ablation. Voilà. Et je pense que peut-être quelque part, de laisser la chance à ces gens-là de pouvoir choisir leur sexe.
Bah oui, hein, attend qu'ils soient.
Bah oui, c'est à un moment donné.
Surtout c'est des médecins, voilà.
Leur capacité de décision, de choix soit.
C'est l'un des combats de démarche des fiertés, c'est le combat pour la libre disposition de son corps, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, en France, on n'est pas libre de disposer de son corps.
Hein. Alors, oui,
principe c'est ça. D'indisponibilité du corps humain.
Alors, on reviendra un petit peu justement sur les sujets de la PMA aussi après, de l'affaire, comme on l'appelle, Moussa. Pour finir, donc, la présence des queers radicalisés, des anarcho-queers, tout ça, c'est pas une crainte pour vous. Mais est-ce que la préfecture n'a pas mis un peu de pression quand même, en disant, écoutez, hein, d'accord, ok, mais arrangez-vous pour qu'il n'y ait pas de bordel. En gros, c'est ça.
C'est ça. En tout cas, ils nous ont dit qu'il fallait qu'on évite. Qu'on veille à ce qu'il n'y ait pas d'incident de notre cortège vis-à-vis de l'extérieur.
Ouais. Voilà. Et vous allez le faire. Vous allez aller voir, par exemple, quand vous allez arriver sur Saint-Jean, disant attention, pas de provocation.
On va échanger avec eux. Et je pense qu'ils sont suffisamment respectueux du message de l'association pour ne pas pour ne pas dégrader le message, je pense que c'est de l'intérêt de personne qu'il y ait des incidents qui se passent, ni d'une autre, ni du leur, ni de ceux d'en face, ni de la préfecture.
Ouais.
Donc à un moment donné, je pense qu'en personne intelligente, on est capable de s'entendre et de voir qu'il y a des messages qui doivent être passés et que ce serait pas le bon message aujourd'hui si on allait saccager le vieux lion.
Bon, alors, on va écouter la musique que tu nous as amenée, puis on reviendra en deuxième partie, plus sur l'aspect, donc, des... et puis aussi sur l'affaire Moussa, mais sur l'aspect militant de la marche cette année, indépendamment, donc, de tout ce dont nous venons de parler, Saint-Jean, etc., les fachos.
Je dis ce que c'est ?
Les fachos, oui, tu peux.
Une musique très, très gay pride, un son très gay pride, divine.
Divine. Divine. Mais c'est divine.
Mais oui, c'est divine, bien évidemment. Divine. Je me dis, c'est le moment ou jamais, quoi. Shake it up. J'adore.
La seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Nous voilà donc de retour. Je dirais que je vais dire la messe.
Alors Michel... Père Gérald.
Non, c'est bien.
On a une nouvelle
sœur. Posternez-vous devant moi.
Eh bien, tu sais quoi, alors, je fais une petite parenthèse personnelle. Ma maman est allée à une messe il y a quelques semaines. Ça te fait rire. Une messe où il y avait un hommage à une maison qui est décédée il y a quelques temps. Bref. Et le curé, qui paraissait charmant au début, a commencé à se lancer dans des petits blabla, machin, mariage pour tous.
Ah oui. Aucun rapport avec le sujet.
Homosexualité, machin, transsexualité, contre nature, tout ça.
Ah bon ?
Ah ouais. Ma mère, elle regardait autour comme ça. Et oui, personne bougeait, elle était comme ça. Elle s'est levée, elle s'est tirée. Voilà. C'était pour mon oncle quand même. Eh ben, elle est sortie de l'église quand même.
C'est bizarre voilà. Que tu mettais de dire ça comme
mais
ça.
Non, mais il y en a, mais... avec le décès.
Bah, c'était, en, fait, c'était, en fait, c'était pas que juste pour mon oncle, c'était une messe générale. Voilà.
Et à la fin, on citait les.
Voilà, et à la fin, il citait les hommages voilà, des personnes qui étaient décédées. Et du coup, bah, dans son. Je sais plus qu'on appelle ça.
Hein. Homélie.
Homélie, merci. Voilà, il a. Il s'est lâché, quoi.
D'accord.
Mais bon. C'est comme au mariage de mon beau-frère. Je finis.
Il arrive une grosse aventure.
Ah non, mais écoute.
On va faire toutes les mêmes.
Je filme le mariage de mon beau-frère à la mairie, comme ça. Et le maire, d'un coup, qui dit bon, nous sommes en, dans des. C'était en pleine loi pour le mariage pour tous. La loi n'était pas encore signée. Nous sommes en plein contexte sociologique un peu spécial. Je dis ok, il va commencer à en parler, mais de quel bord il sera, tu vois, je sais pas trop. Ça. Je filmais, et puis le mec, il dit j'avoue que j'aurais été beaucoup moins à l'aise si j'avais dû marier deux hommes.
Ah oui.
Et moi, je filmais comme ça, et puis il y avait les têtes des gens devant moi qui faisaient. En fait, les gens ne se rendent pas compte, les gens qui osent prononcer des paroles comme ça, à quel point en fait ils se ridiculisent plus, parce qu'il y a quand même une majorité de personnes qui sont, et c'est rassurant, qui sont quand même ouvertes d'esprit et qui se disent mais tais-toi avec tes discours.
Puis
quoi,
après, c'est
pas
quand même
pire que ça, moi je dirais, et de la violence que ça génère.
Enfin, non, mais...
au moment des manifs pour tous, le nombre de gamins qui ont témoigné sur des forums que mes parents m'ont obligé à venir sur les manifs pour tous, alors que moi je suis homo. Qu'est-ce qui va se passer le jour où je vais devoir leur dire, parce qu'on fera
oui, il y a un témoignage qui était un jeune qui effectivement.
Il y en a eu plein des comme ça. D'ailleurs, il y a eu il y en a un qui a. Qui a témoigné, qui aujourd'hui l'a dit à ses parents, et du coup ça s'est très très mal passé. Enfin, ouais. Des situations quand même qui ont été terribles quand même dans certaines familles à ce moment-là.
Alors, cette année, donc la marche, le mot d'ordre de la marche, très précisément.
C'est PMA sans condition, l'égalité n'attend plus.
Voilà. Alors, nous, on a eu des échos, on en a déjà parlé ici, des fameux états généraux de la bioéthique. Et notamment à Lyon, encore une fois, s'est déroulé beaucoup de débats citoyens sur la PMA spécifiquement.
Si on peut appeler ça des débats.
Voilà. Alors, il se trouve qu'effectivement, la Manif pour tous, Alliance Vita, les Provis, Sens Commun, ont complètement noyauté le débat en s'inscrivant massivement et très rapidement. Alors, bon, on en a déjà parlé ici. On va pas revenir vraiment là-dessus, comment ça s'est passé, mais on sait que la Manif pour tous et tous leurs accointés, je dirais, toutes les personnes qui sont proches d'une manière ou d'une autre, ont noyauté, ont phagocyté le débat, ce qui a rendu, du coup, un rapport de synthèse assez biaisé à la sortie. Et ce que je regrette, c'est que justement, le rapport de synthèse ne fasse pas part de la part des choses. Ces rapports de synthèse disent on n'a pas trouvé de consensus sur la PMA. Alors que le CCNE avait dit, bon, ils étaient quand même favorables.
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi.
Bah, ils ont dit on n'a pas trouvé de consensus.
Ils disent qu'ils n'ont pas trouvé de consensus, mais dans leur préconisation, en tout cas pour le conseil d'éthique, le CERA, le conseil local d'éthique, ils ont dit dans leur préconisation l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Effectivement, ils disent qu'il n'y a pas consensus, mais ça, on s'y attendait. Enfin, tout le monde le sait qu'il n'y a pas consensus. Il y a des opposants, toujours les mêmes.
Mais le fait que la surreprésentation des opposants dans les débats, est-ce qu'ils vont tenir compte quand même, parce que...
Non, c'est pas... C'est, justement, ils avaient dit que ce n'était pas une question de proportion, de oui
parce
et
que,
non,
alors,
etc. Mais
pourquoi,
c'était des arguments...
Pourquoi faire des débats, essayer de faire des débats différemment? Parce que là, on s'est posé aussi la question, mais peut-être que tu as déjà répondu partiellement, puis on s'en doute un petit peu. Néanmoins, on s'est souvent demandé ici à l'émission, enfin, on s'est demandé une ou deux fois dans l'émission, on se dit, mais alors, la Manif pour tous, ils sont en capacité de se précipiter sur les réseaux sociaux et de noyauter, et les associations sont où à ce moment-là? Il y a eu des militants associatifs, ça on le sait, ça s'est même souvent mal passé, parce qu'on aura carrément, on a eu des témoignages, tu nous disais, des chaises balancées au milieu du débat pendant qu'il y en a un qui parlait, enfin un militant associatif LGBT, des gens qui étaient interrompus par des cris, par des vociférations, ça s'est passé comme ça, mais les militants LGBT, ceux qui sont allés, sont un peu allés dans la fosse au Lyon, quoi.
Bah, globalement, les associations LGBT n'ont pas voulu rentrer dans le jeu de ces états généraux de bioéthique. Parce que notre position, en tout cas la position qui est partagée par la plupart des associations LGBT, c'est de dire que c'est pas une question de bioéthique.
Ça,
la question de la PMA, elle a été, en termes de bioéthique, elle a été tranchée en 94 avec les premières lois de bioéthique. La pratique médicale n'a pas changé depuis 1994.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est une question politique, c'est pas une question de bioéthique. Et de vouloir mettre ça dans la bioéthique, c'est Hollande qui a voulu... qui a voulu se cacher derrière le CCNE pour justifier son abandon de la PMA, mais c'est juste une posture politique. Donc je pense qu'on a eu raison de ne pas participer à ces débats. Nous, on a organisé notre propre débat sur cette question, parce qu'on trouvait intéressant quand même de discuter du sujet et de surtout de partir du côté inverse des états généraux de la bioéthique, c'est-à-dire plutôt que de laisser des experts, des médecins, des machins parler, de parler de l'expérience des personnes qui vivent concrètement la question de la procréation médicalement assistée, de la GPA, parce qu'on en a discuté aussi dans notre débat, et de la question des droits de ces enfants. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait des droits de ces enfants qui existent aujourd'hui ?
Mais moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que ces états de la bioéthique étaient présentés comme une consultation citoyenne qui peut avoir quand même un effet sur la suite des événements. Elle va être prise en compte par le débat
législatif. Au final, c'est un combat politique.
Oui.
À un moment donné,
non, mais attention, je suis d'accord avec le principe, on est tous d'accord, ça n'a rien à foutre dans une loi de bioéthique, la PMA, c'est juste l'extension d'un droit qui existe déjà, un point c'est tout, ça je suis d'accord. Mais la façon dont c'est configuré à l'heure actuelle, est-ce que justement laisser faire les débats comme ça, en laissant noyauter par la Manif pour tous, sachant que la synthèse, le résultat de ces débats vont peut-être entrer en ligne de compte dans le futur débat qu'il va y avoir autour de cette loi. On entend qu'ils disent qu'on va carrément abandonner la PMA, qu'elle ne sera pas.
C'est pour ça que c'est le mot d'ordre de la marche. Nous, on a décidé de se battre politiquement avec une marche. Ouais. Il va y avoir 15 000 personnes qui vont manifester pour la PMA. Et puis, ça sera le cas dans d'autres villes aussi. Et à un moment donné, c'est une question de rapport de force. Ils étaient quelques centaines sur les débats. On sera des milliers dans la rue pour exiger la PMA. Le poids politique, il est là.
Mais est-ce qu'on aurait. Enfin, bon, je veux pas. Mais est-ce qu'on aurait quand même pas pu, au niveau militant, essayer de fédérer plus pour être plus présent et pour nous aussi balancer des chaises.
Je pense que c'était pas une solution parce que faut voir. Nous on a l'expérience des débats autour du mariage pour tous. Moi je les ai faits. On s'est beaucoup investi dans les débats sur le mariage pour tous. Je me rappelle notamment du débat sur le mariage pour tous à la mairie du 3e arrondissement où même s'ils n'étaient pas très nombreux, on ne pouvait pas prendre la parole. On était majoritaire dans la salle, mais dès qu'on s'exprimait, les autres hurlaient, vociféraient, sifflaient. Et il n'y a pas besoin de 15 personnes.
Mais moi, des coups de sac balmain et c'est bon.
Il n'y a pas besoin d'être majoritaire dans la salle pour empêcher le débat d'avoir lieu. Donc c'était pas des lieux de débat, c'était des lieux finalement de pugilat. On n'avait pas à rentrer là-dedans et on n'avait pas à se prendre à nouveau des injures, des insultes, des violences.
Mais il y a quand même une inquiétude extrême sur la PMA parce que Macron, finalement, si on regarde bien, c'était pas dans son programme. Il a juste dit qu'il était favorable dans un tweet ou je sais plus quoi en février avant l'élection, évidemment.
Oui, mais c'est comme tout moment, c'est un combat politique. On va le mener politiquement avec des marches, avec des mobilisations. Je suis heureux qu'il y a quand même beaucoup de marches en France qui ont choisi cette thématique comme mot d'ordre. Je regrette un tout petit peu qu'on n'ait pas eu autant de coordination que ça aurait pu l'être, que comme ça l'a pu être sur le mariage pour tous, où là effectivement pendant 2 ans toutes les marches avaient vraiment s'étaient mis d'accord sur des mots d'ordre communs, en tout cas d'une thématique commune autour de cette élection. On avait invité à Paris tous les candidats à l'élection présidentielle pour présenter leurs propositions sur le sujet. Bon, on avait réussi là vraiment quelque chose qui n'avait jamais été fait avant, qui n'a jamais été refait après. C'est dommage qu'on n'ait pas su garder cette dynamique. Bon, pour autant, il y a beaucoup de marches en France aujourd'hui qui ont choisi ce mot d'ordre. Et je pense que les Gay Prides sont quand même le levier politique le plus puissant qu'on ait pour obtenir un certain nombre de choses. Et globalement, ça a fonctionné un certain nombre de fois. En 99, 96, on s'est battu dans 96, c'est le PAX. C'est quand même beaucoup les marches des les Gay Pride qui ont contribué à ce que le PAX passe. En 99, c'est 99 sur la loi pénalisant les propos homophobes. Ça faisait plus d'un an que le gouvernement nous baladait là-dessus. Et du coup, un mois avant les marches, toutes les marches de France ont changé le mot d'ordre et ont fait un mot d'ordre sur l'homophobie tue. Au mois de décembre, la création de la HALDE et la loi sur la prison des propos homophobes. Qu'on avait fait tous les mots d'ordre autour de l'éducation, c'est la première fois qu'il y a eu derrière une directive du ministère de l'Éducation nationale contre l'homophobie à l'école. Donc il y a un vrai poids politique des marches à partir du moment où on arrive à être unis et homogènes, en tout cas sur une thématique commune. Ce qui est à peu près le cas cette année, donc on espère, en tout cas, on va se battre pour.
Néanmoins, je sais que tu n'as pas le boule de cristal, tu ne peux pas lire l'avenir. Hein. Mais quel est ton sentiment, toi, personnellement, et aussi peut-être quand tu discutes avec les autres militants de la LGP, par rapport à la PMA ? Est-ce que moi, j'ai l'impression que ça sent roussi, la PMA ?
C'est mitigé. Moi, je pense. Enfin, de ce que j'ai lu, il y a un journal qui est quand même assez bien informé, en général, sur ces questions, c'est La Croix.
Qui fait des articles qui sont parfois très intéressants.
Qui fait des articles très intéressants.
C'est pas faux.
Et qui expliquait.
C'est pas valeur actuelle, La Croix.
Non, c'est pas du tout valeur actuelle. C'est pas. c'est pas minute. Et donc la Croix, ils expliquaient que en fait, ils voudraient aller très vite sur le sujet, mais que là, c'est pas possible au mois de juin. Donc ils vont reporter le rapport du CCNE sur les états généraux en septembre pour déposer une proposition de loi très vite derrière pour aller assez rapidement en termes de vote pour éviter que justement les antis se mobilisent. S'il fait ça, ça peut passer. Si c'est effectivement la stratégie qui est développée, je pense que c'est la bonne et que ça peut passer. Et ça passera si on est capable au mois de juin de se mobiliser nombreux sur les marches en France pour faire passer ce message-là. Si on est très peu à se mobiliser sur les marches à ce moment-là, bah, effectivement, oui, là, il va se dire, il n'y a pas de gens qui défendent cette question dans le pays, donc pourquoi est-ce que je me ferais chier à mettre les quatre oiseaux ? Donc il faut effectivement qu'au mois de juin, on soit tous mobilisés sur nos marches pour dire ce message que la PMA, c'est maintenant. C'est pas dans 7 ans, c'est pas aux prochaines révisions de loi bioéthique. C'est maintenant, ça a été promis. Ça fait 2 ans qu'on débat moult fois de cette question-là. Alors, quand il s'agit de remettre en cause le droit du travail pour des millions de Français, on est capable de couper court au débat en imposant des ordonnances. Par contre, pour la PMA qui va concerner 7000 femmes par an, c'est à peu près ça, là, il faut des mois, des années de discussion pour un truc qui ne retire de droit à personne. Qui va juste donner des droits à 7000 femmes par an en plus, qui va permettre à des femmes d'avoir des enfants, de faire des enfants plutôt que d'aller à l'étranger. On est dans une situation qui est exactement l'inverse de celle de l'avortement avant la loi Veil. Les femmes françaises allaient à l'étranger pour avorter. Aujourd'hui, elles vont à l'étranger pour faire des enfants parce que la France leur refuse. C'est aberrant comme situation. Mais
ça reste dans le cadre de la libre disposition du corps.
Oui, c'est la libre disposition de son corps.
Et rappelons que la PMA ne concerne pas uniquement les lesbiennes. C'est aussi pour les femmes célibataires.
Les femmes célibataires. Femmes célibataires, oui, voilà. Tout à fait.
Donc ça aussi, c'est important. Mais
c'est aussi ça aussi, à un moment d'expliquer que le combat des LGBT sur un certain nombre de sujets n'est pas spécifique au LGBT. Quand on s'est battu sur le PACS, c'est une loi qui a été faite pour tous. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le PACS, c'est 90% d'hétéros qui signent le PACS. Quand on se bat sur les droits des beaux-parents pour améliorer justement le droit de ses enfants, ça concerne aussi bien les familles hétéros, divorcées, recomposées, que les familles homoparentales.
Bien sûr, ouais.
Et au contraire, justement, quand on nous proposait, comme ça a été le cas de Sarkozy, une union civile réservée aux couples homosexuels, ben on s'est battu contre. On veut pas de droits spécifiques, on veut les mêmes droits que tout le monde.
Ouais.
Donc on se bat effectivement pour faire avancer les droits de tout le monde.
Alors on va devoir s'arrêter de parler de la PMA, malheureusement, même si le sujet est très intéressant. Sachez que moi, je prie tous les soirs la Vierge Marie pour que la PMA passe.
Voilà. Bah, elle a subi une PMA quand même, donc c'est la moindre des choses qu'elle nous aide.
Je ne sais pas si ça va marcher.
C'était une procréation miraculeusement assistée, mais voilà. C'était une PMA quand même.
Exactement. Bon, en tout cas, dernière affaire, enfin, on appelle l'affaire Moussa parce que c'est pour abréger. Mais on a 8 minutes pour en parler, alors que ça mériterait des émissions entières, je dirais, pratiquement. Et il se trouve que le hasard du calendrier, Fodé Moussa, Camara, guinéen de Guinée-Conakry, qui est installé en France depuis 2015, qui est arrivé avec une autorisation de travail, qui a fait une demande à l'OFPRA pour être régularisé, pour rester sur le territoire français.
Il a fait une demande d'asile.
Une demande d'asile, voilà. S'est vu refuser cette demande d'asile, malgré le fait qu'il est, il milite à AED, déjà. Il est donc homosexuel.
Tout à fait.
Et l'OFPRA n'en a pas tenu compte, en fait. Lui, il a...
En fait, l'OFPRA ne croit pas...
À son homosexualité.
À son homosexualité. Mais parce que c'est hyper compliqué. Comment vous voulez prouver votre homosexualité ? Moi, je serais bien embêté si un jour un policier ou une autorité comme l'OFPRA venait me demander de prouver que je suis homosexuel. Je ne vais pas me livrer un acte sexuel devant eux, quoi, à un moment donné.
Avec eux.
On en a souvent discuté ici, avec Sébastien Char, notamment de la CIMAD. Et c'est vrai que c'est un problème.
Surtout qu'ils ont du mal à comprendre.
C'est un problème.
À un moment, je pense que n'importe qui est capable de comprendre quand on explique concrètement la situation. Quand vous venez d'un pays où la loi condamne l'homosexualité à une peine de prison, où les gens tabassent, brûlent,
ce qui est le cas de la Guinée, d'ailleurs.
Les homosexuels, c'est le cas du compagnon de Moussa.
Voilà.
Quand vous arrivez dans un pays comme la France, qui est beaucoup plus ouvert sur la question, même si y a encore des choses à faire, et encore des agressions aussi qui existent, c'est pas la première chose que vous allez dire quand vous allez arriver dans le pays dans lequel vous arrivez. Parce que vous savez pas comment ça va être pris, vous savez pas comment, si ça va pas être su dans votre pays, si vous êtes renvoyé dans votre pays parce que vous n'allez pas avoir votre demande d'asile. Donc effectivement, manifestement, il l'a pas mentionné dans sa première demande à l'OFPRA. Et ça, pour l'OFPRA, c'est rédhibitoire. S'il n'a pas dit la première fois, ça veut dire que c'est pas vrai. Donc du coup, on le croit pas, on remet en cause forcément les choses. Et puis en plus, il maîtrise pas complètement le français. Et donc du coup, y a des incompréhensions autour de est-ce qu'il a une compagne, est-ce que c'est une amie qui l'héberge, etc. Les mots sont importants entre amis, compagne, etc. La nuance, elle est pas si simple que ça quand on maîtrise pas le français. Donc oui, il y a des contradictions entre guillemets.
Il y a aussi des nuances culturelles entre la culture africaine
et aussi entre
et la
homosexualité,
française.
Bisexualité. Ouais, ouais. Les termes sont. Voilà, quand on maîtrise pas la langue, c'est compliqué.
Il n'empêche qu'en Guinée,
pour l'instant, il a pas eu jamais eu dans ses dans les péripéties judiciaires qu'il a rencontrées d'interprète dans sa langue maternelle. Ouais.
Alors pour faire vite, malheureusement, parce qu'on est obligé de service. Donc en Guinée, c'est un pays qui pénalise l'homosexualité de peine de prison. C'est aussi un pays où il y a une charge sociale très forte, dans le sens où des personnes homosexuelles sont LGBT sont molestées, tuées, etc. Et que c'est le cas d'ailleurs de son compagnon qui a été brûlé, je crois. Hein, a été
brûlé dans immolé. Cas, c'est le témoignage qu'en fait Moussa.
Voilà. Donc Moussa a fait l'objet donc d'une expulsion du territoire qui a été empêchée grâce à l'action de militants.
Tout à fait. En fait, il était militant sur Nîmes. Il y a eu plusieurs tentatives d'expulsion depuis Nîmes, sauf que les militants de Haït se sont mobilisés à l'aéroport pour empêcher l'expulsion. Pour essayer de faciliter l'expulsion, le 3 mai dernier, ils se sont dit « Tiens, on va l'envoyer sur Lyon, ça sera plus simple, on va le couper de ses soutiens locaux, comme ça, ça sera plus facile de le foutre dehors ». Sauf que entre militants, même entre villes voisines relativement éloignées, on se connaît, donc on a été contacté assez rapidement, on s'est mobilisé à quelques dizaines de plusieurs associations, la LGP, le planning familial, les Méduses et quelques autres, pour être à l'aéroport et empêcher l'expulsion de Moussa. Lui-même s'est défendu, et pour s'être défendu de monter dans un avion qu'il conduisait potentiellement à la mort, on le fait comparer devant le tribunal de grande instance. Donc ça, c'était le 4 mai. On a demandé, son avocate a demandé le renvoi de l'audience afin de gagner du temps pour notamment déposer une demande de recours de sa demande d'asile. Ce qui a été fait, puisque effectivement, on est passé en audience hier au tribunal de grande instance. Et là, c'était juste hallucinant de voir que l'avocate avait demandé donc le 4 mai, donc il y a plus d'un mois, qu'il y ait une traductrice en langue soussou pour que on puisse effectivement avoir la réalité du témoignage de Moussa, avec ses vrais mots, et que ce soit traduit par une vraie traductrice. Et au tribunal, qu'est-ce qu'on voit ? Arriver une traductrice qui commence à parler avec Moussa et qui ne se comprennent pas. Bah oui, elle ne parlait pas le soussou. Comment, en un mois, le tribunal n'a pas été capable de trouver une traductrice qui parle la même langue ? C'est un Africain, donc on lui met un autre traducteur africain, c'est bon, vous allez comprendre. On a ce sentiment qu'effectivement, c'est une forme de racisme, de se dire, tiens, entre Africains, ils vont bien se comprendre. L'avocate explique que ça, c'est pas possible de continuer le procès avec un traducteur qui ne sert à rien. Mais pour autant, le président du tribunal a dit, ils ont délibéré, ils ont dit, si on peut continuer, il maîtrise suffisamment le français, on continue le procès. Donc là, l'avocate, évidemment, est entrée dans une colère noire, une colère saine, a fait effectivement une demande d'appel de cette décision immédiate pour demander l'annulation même du jugement, en fait. Donc elle est sortie du tribunal, elle a écrit ses conclusions, elle a appelé le bâtonnier qui est venu la soutenir dans l'enceinte du tribunal. Pour autant, Moussa a été condamné à 2 mois d'emprisonnement
et
2 ans d'interdiction du territoire.
Voilà.
Donc, mais 2 mois d'emprisonnement, où ça ?
Je sais pas,
En France, il est
en prison, là ?
Oui, il est en prison.
Il va rester en prison, alors, parce qu'il était déjà en prison. Donc, c'est pas une peine
qui se rajoute, puisqu'il n'a pas été condamné à la première audience. C'est juste qu'il est resté en détention. Il y a eu un mandat de dépôt qui a été prononcé. Par contre, les 6 semaines là, qu'il a fait en prison viennent en déduction des 2 mois auxquels il a été condamné.
Il est en prison comme les meurtriers, les violeurs.
Tout à fait,
les
corbats.
Et en fait, ça a soulevé l'indignation à juste titre des personnes présentes, y compris de la LGP, évidemment. Et cette indignation, elle va être exprimée, en tout cas, à la marche.
À la marche, on va demander aux gens de s'asseoir avant le départ de la marche, de faire un sit-in en soutien à Moussa pour obtenir sa libération immédiate, l'abandon de toutes les poursuites à son encontre et sa régularisation immédiate. Parce que que ce soit le ministre de l'Intérieur ou le président de la République ont le pouvoir de le régulariser quand ils veulent. L'ont fait il n'y a pas très longtemps.
Donc tous rendez-vous samedi à la marche.
Rendez-vous à samedi, 14h,
place Bellecour. 14h, place Bellecour.
Pour la 23e marche des fiertés.
Voilà. Eh bien, merci Olivier, en tout cas. Désolé parce que ça ne dure qu'une heure et il faudrait prévoir des émissions spéciales. avant la marche de 2 heures. On va faire ça la prochaine fois, l'année prochaine demain. Tu seras les 50 ans de Stonewall l'année prochaine.
Ce sera la 24e. On voilà. va plus vers la 25e.
C'est ça, 50 ans l'année prochaine. Exactement. Ouais. 50 ans.
Incroyable.
Voilà, merci Olivier en tout cas.
Merci à vous.
Et nous te retrouvons donc l'année prochaine pour les 50 ans de Stonewall. Et la 24e marche. Cette année, c'est la 23e.
23e.
Voilà. Merci à tous. Merci. Salut. Michel, merci Laurence.
Merci à tous.
Merci Bernard et ton petit cul.
Pluriel gay.